Chapitre 26. Quatre fois que je relis la même page sans parvenir à la déchiffrer. C'est pourtant un dossier simple. Manifestement, je ne suis pas capable de me concentrer. Lorsque je parcours les colonnes de chiffres, j'ai l'impression d'entrevoir sa silhouette. Quand je pointe les justificatifs, j'ai la sensation d'entendre sa voix me lire les intitulés. Même le logo de l'entreprise, sur les bulletins de paye fournis, me fait penser à son visage qui ne regarde que moi. Il est temps d'inventer un mot bien plus fort qu'obsession. Il ne sera réservé qu'aux filles dans mon genre. Perdu dans des sentiments qui les dépassent, illuminés comme des lapins pris dans les phares de l'amour, noyés dans un verre d'eau que le moindre rayon de soleil transforme en océan de bonheur. Ce matin, lorsque je suis arrivée, je suis restée plantée comme une gourde devant Amour, en me disant qu'il portait le plus beau prénom du monde. Il m'a fait la bise. Pas une bise de principe, il ne fait jamais cela. Il a, comme toujours, pris de mes nouvelles en se souciant de ma réponse. Cette fois pourtant, je l'ai encore plus apprécié, car son attention est une parfaite métaphore de ce qui m'arrive. Désormais, j'ai un amour qui se soucie de moi. Je vais me redire cette phrase 10 000 fois et je n'aurai plus besoin de m'enfiler ces petits gâteaux félons pour aller mieux. C'est quand on rencontre enfin l'être aimé que l'on se rend compte à quel point il nous manquait.
Laura, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend pour la réunion de commission?
Mélanie m'arrache à mes songes. En d'autres temps, je l'aurais fait fouetter pour cela. Mais aujourd'hui, je pardonne tout. J'en ai les moyens.
J'arrive! Tu ne prends pas tes dossiers?
Pardon?
Tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit?
Bien sûr que non, je ne dois en aucun cas jeter des objets sur les gens avec qui je ne suis pas d'accord.
C'est exact, mais concernant la présentation de ce matin, je t'ai aussi dit de te méfier d'un membre particulièrement virulent.
Monsieur Dutrille. C'est lui qui bloque systématiquement les dossiers, c'est ça?
Un vieil aigri. Il a l'impression que chaque centime distribué sort de sa poche.
Pour la première fois depuis mon retour, je participe aux délibérations pour attribuer les aides. L'équipe des services sociaux est chargée de présenter les demandes estimées recevables à une commission composée d'élus, de représentants d'associations et de responsables. On m'a dit qu'avant mon choc à la tête, j'étais très efficace dans ce rôle et que mes préconisations étaient pratiquement toujours validées. Valérie, la directrice, préside la séance. Mes collègues assistantes sociales et moi-même avons chacune une dizaine de cas à exposer. Des demandes d'aide financière ponctuelles, des signalements nécessitant une aide d'urgence mais qui devront ensuite faire l'objet d'un suivi à d'autres échelons. Notre champ d'intervention couvre directement ou indirectement presque tous les impondérables auxquels un individu peut être confronté. L'existence s'en fabrique de nouveau tous les jours. Il est impressionnant de constater à quelle vitesse une vie peut basculer suite à un événement imprévu. Des gens se retrouvent séparés, incapables de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, sans logement, isolés socialement, ou même en danger. Et notre boulot consiste à stopper la spirale infernale pour éviter qu'ils ne se fassent broyer. J'aime bien l'idée. Bien sûr, tous ne sont pas uniquement victimes. Certains ont un véritable don pour se plonger dans les ennuis jusqu'au cou tout seuls. Mais nous devons les aider quand même. Reste que je suis au poste idéal pour me rendre compte de ce que la vie peut avoir de cruel ou d'injuste. Je suis stupéfaite de m'apercevoir que même dans un pays comme le nôtre, où rien ne manque, quelqu'un qui a un travail et un salaire peut se retrouver obligé de dormir dans sa voiture parce qu'il n'arrive plus à se loger. Kaya ne saurait sûrement quoi faire. Lui découvrirait le moyen de rétablir la justice sociale et l'égalité. Vous ai-je dit qu'en plus, il était très beau? Madame Perrin s'adresse à moi.
Laura, nous vous écoutons.
Perdue dans mes pensées, je ne me suis même pas aperçue que mes collègues m'ont déjà plaidé. Je comptais les observer pour savoir comment m'y prendre.
C'est raté? Je vais devoir me lancer sans filet.
Mon premier cas est assez évident, une famille en plein divorce. Le père part refaire sa vie dans l'Ouest. La mère souhaite se rapprocher de ses parents dans le sud où elle va partir avec sa plus jeune fille encore scolarisée, mais le jeune de 22 ans, qui doit finir sa formation en alternance, se retrouve à la rue. Il lui faut un coup de main le temps de se retourner. Je l'ai rencontré, il est de bonne volonté et est décidé à s'en sortir malgré la perte de ses repères. Le dossier passe sans problème. Je suis heureuse pour ce garçon. Mon deuxième dossier me paraît tout aussi évident. C'est une femme seule qui élève un petit garçon de 5 ans dans un studio. En quelques mois, elle a dû affronter 2 licenciements. Et même si elle vient de retrouver un emploi, son bailleur lui reproche des retards et des manquements de paiement du loyer. Il a entamé une procédure d'expulsion. Une aide lui permettrait d'interrompre le processus en lui donnant le délai pour régulariser. Un homme m'interroge. Quel emploi occupe-t-elle ? Agent d'entretien dans un centre administratif. Un emploi stable ? De quel type étaient ces licenciements ? Demande un autre. Le premier économique et le second justifié par des retards répétés et des absences que l'employeur a considérées comme injustifiées. En fait, son fils est tombé malade, nous avons vérifié les certificats. Elle n'avait personne pour le garder. Sa famille ? À l'étranger, incapable de l'aider. Silence pesant. Un homme prend la parole. Je soupçonne qu'il s'agisse de Monsieur Dutril, la bête noire des collègues.
Ne peut-elle demander une avance à son nouvel employeur ?
Elle l'a fait, mais cela prend du temps et les recommandés s'accumulent déjà. Il n'est visiblement pas décidé à en rester là et me lance un regard froid.
Tous les jours, nous voyons des gens dans des cas similaires, c'est évidemment regrettable, mais nous ne pouvons pas satisfaire à toutes les demandes. D'après ce que je lis de votre rapport, cette dame, à qui je souhaite bonne chance, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir notre appui.
Tout le monde garde les yeux baissés, sans rien trouver à redire. Il referme le dossier, considérant sans doute que le cas est réglé. Mais je ne suis pas d'accord. J'ai rencontré cette femme, monsieur. Et en plus des justificatifs fournis, j'ai pu constater à quel point elle se bat pour s'en sortir. Je sais que certains abusent du système. Je suis consciente que beaucoup pensent que tout leur est dû et qu'ils se présentent à nous comme un distributeur d'argent liquide. Mais ce n'est pas son cas. Elle gère de front une situation professionnelle difficile et une charge de mère célibataire.
Mademoiselle Laforie, je me fie aux pièces produites.
Elles ne suffisent pas à une juste appréciation du dossier, monsieur. Sinon, à quoi nous servirait-il de recevoir ces gens ?
L'évaluation des situations répond à des procédures strictes qu'il convient de respecter et dont il faut écarter l'affect.
Si des grilles de lecture et des moyennes suffisent à évaluer les vies, à quoi servons-nous ? Un ordinateur équipé d'un tableur ferait l'affaire. Notre mission n'est-elle pas d'écouter et de jauger en nous appuyant non seulement sur des éléments objectifs, mais aussi sur un ressenti humain ?
Nous ne sommes pas juges, mademoiselle. Les critères d'attribution ne peuvent dépendre à ce point d'éléments subjectifs. Cette femme vous a émue, c'est bien naturel. Mais il n'en reste pas moins.
Je vous défie de lui annoncer vous-même votre décision. Si vous êtes convaincue de ce que vous dites, alors assumez-le. Nous avons les moyens de l'aider. Je pense même que nous en avons le devoir. Beaucoup trichent, beaucoup abusent. Ce n'est pas une raison pour condamner les autres. Nous sommes payés pour ne pas les confondre. Mieux, nous sommes tous volontaires pour faire notre travail correctement. Si ce genre de cas est rejeté, alors je ne sais plus quel métier je fais. Et devant cette femme, je vais avoir honte d'avoir trahi ma mission. L'homme me regarde fixement dans les yeux. Je crois qu'il essaie de m'intimider, mais il n'y arrivera pas. Je soutiens son regard. Et la salle reste suspendue à l'issue de cet affrontement silencieux. Le vieux barbon ne me fait pas confiance. Et si je lui balançais ma trousse à la figure ?